With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Coucou, c'est Mimi.
Coucou, c'est Fab.
Et bienvenue dans The Boys Club. Il fait un AVC, c'est tragique. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où un mardi sur deux, avec Fab, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, on est avec Marc. Salut Marc.
Salut.
Merci beaucoup d'être venu dans The Boys Club.
Avec plaisir.
Est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, je suis Marc, donc je suis assigné garçon. Et non, j'ai 32 ans et j'ai créé une marque avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Horace, qui fait des essentiels de soins pour mecs. Voilà.
Qui est une très chouette marque, donc merci. Bravo. On va en parler au fur et à mesure de ce podcast, je pense, car la cosmétique pour hommes, c'est pas encore un sujet qu'on a beaucoup abordé dans The Boys Club. Donc je suis très contente que tu sois là. Mais avant ça, on va commencer avec la première question. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme ?
Et c'est une vague question, forcément dynamique. En fait, à part considérer le fait que c'est un pénis inné ou acquis, il n'y a pas vraiment d'attributs finalement si fixes que ça. Donc, je vais réduire ça à ça. Voilà.
La bite. Comment est-ce que tu penses que tu t'es construit en tant qu'homme ? Comment t'étais quand t'étais plus jeune, quand t'étais enfant ?
Tout début, en fait, jusqu'à la fin du CM2 et du coup de l'école primaire, j'étais hyper introverti. Globalement, je passais plus de temps avec les filles de ma classe que les garçons. Parce que j'étais plus à l'aise dans des jeux hyper calmes que courir dans la cour ou jouer au foot. À jouer au papa à la maman, où finalement j'avais souvent le rôle du papa, parce que j'étais souvent le seul mec. Et voilà, et après j'ai un peu changé, puisque je suis dans un autre collège que celui de mon secteur. Et ça a été un peu l'occasion de me repenser en tant que garçon et de m'affirmer comme un être beaucoup plus turbulent et beaucoup plus extraverti. Et donc là, je suis rentré dans une seconde phase un peu plus classique d'un garçon qui court un peu partout, qui parle fort, qui fait pour le coup un peu chier le monde jusqu'à la fin du collège. Et après, ça a été se calmer un petit à petit, voilà.
Mais alors au-delà de l'aspect juste, t'as changé d'école, donc j'imagine que t'as changé d'environnement, ouais. C'est l'occasion de repartir à zéro et de peut-être laisser ces trucs du passé et de réadopter des nouveaux,
ouais.
Il était où le vrai Marc ? Est-ce que le Marc c'était le Marc d'avant ou le Marc d'après ?
Non, c'est les deux, j'ai un côté à la fois très introverti où il y a des sujets dont je parle pas, j'ai pas envie de parler et comme tout, enfin, je pense qu'on est tout le monde est ambiverte, comme on dit. Je pense qu'il y a le côté de introverti, extraverti. Je pense que finalement, on est tous ambiverte. Et en fait, ma mère m'a mis, comme toute comme mon grand frère, comme elle, comme ma petite sœur, une de mes petites sœurs au théâtre. Et donc, en fait, j'ai commencé à être plus extraverti grâce à ça, parce que t'es quand même sur scène devant plein de gens, et que même si c'est de l'amateur, en fait, mine de rien, quand t'as 100 personnes, à force, t'apprends à parler un peu plus. En fait, j'ai appris un peu à m'affirmer comme ça, et du coup, à être un peu plus turbulent et puis j'étais petit en plus en primaire en fait, et je suis devenu plus grand parce que maintenant je suis un peu plus grand que la moyenne et du coup il y avait ce truc de être plus petit, être tout le temps avec les filles, et je me suis dit peut-être qu'à un moment je peux m'affirmer autrement, vraiment, donc je suis devenu turbulent pour m'affirmer, voilà.
Est-ce que tu t'es mis à traîner avec des garçons du coup?
Ouais. Bah, je traînais quand même déjà avec des garçons, Alan, Cyril, François, tous les... bonjour à vous qui étaient au primaire avec moi.
On les embrasse.
Mais disons que j'étais franchement hyper calme. J'étais un très très bavard, mais j'étais hyper calme, quoi. C'est-à-dire que je pouvais avoir un de mes potes, bonjour à lui aussi, Malik, qui venait me chercher pour jouer au foot et moi qui refusais parce que je préférais rester lire chez moi, quoi, en primaire. Et après, ça a changé avec le collège.
Et comment c'était du coup? Est-ce que t'avais une bande de potes?
Ouais, bah ceux que j'ai nommés, plus des filles type Carole, Morgane, Ginette, voilà. Et après...
T'as vraiment une pote qui s'appelle Ginette ?
Ouais, ouais. J'ai, c'est trop bien. On a même... on a dansé la lambada ensemble à la maternelle.
Ah, les fameuses danses des classes.
Et non, dans le couloir. C'était pas un truc organisé. Ouais, je dansais déjà dans le couloir.
Tu dansais la lambada dans le couloir. Ok.
Apparemment.
On juge pas. Ouais.
Et après, j'avais aussi bien des potes garçons que filles. J'ai toujours été à traîner avec les deux parce qu'en fait, j'aimais bien avoir ce côté un peu bordélique que j'avais avec les mecs et ce côté beaucoup plus calme que j'avais avec les nanas et qui m'allait vachement bien parce que ça me permettait d'avoir un truc un peu plus équilibré. Sinon, j'étais fatigué, quoi. Ou sinon, pas assez fatigué.
Tu dirais que c'était quoi ta place dans cette bande de potes ? Ton statut, on va dire ?
Ah, mais c'est une bonne question. Je sais pas trop. Je sais pas trop. J'ai toujours eu un truc un peu particulier dans le sens où j'avais des très bonnes notes tout en étant vraiment parmi les plus grosses beuleurs du collège.
Les pires élèves pour les profs.
Ouais,
quoi.
Exactement.
Les profs.
Ouais. C'est vraiment, t'as des bonnes notes. Il y a une prof de français en 5e qui a dit que j'allais finir en prison. Ce qui est toujours hyper encourageant en tant que professeur. J'ai oublié son nom, mais salut à elle, ma prof de français de 5e du collège Jacques Amieux à Melun. Et en même temps, du coup, j'étais très turbulent. C'est-à-dire que je pouvais m'amuser à sortir de la classe par la fenêtre juste pour faire rire et rentrer, quoi. Donc c'était hyper hyper chiant à gérer comme enfant et même du coup pour les parents parce que du coup t'as ma mère qui était convoquée mais en même temps ça se passait bien pour les notes donc bon et du coup j'étais un peu entre tout le monde c'est-à-dire j'ai toujours été un peu électron libre être pote avec un peu tout le monde au lycée et parce que j'aimais bien m'entendre avec tout le monde et adapter aussi m'adapter un peu à différents environnements pour apprendre quoi.
Et donc tu parles de ta mère, est-ce que ton père était dans le décor ?
Ouais, alors après mes parents ont divorcé, j'avais 4 ans, donc après galère d'alterner tous les 15 jours, du coup mon père beaucoup moins présent, et je suis très très proche de ma mère, parce que c'est quelqu'un qui a décidé de passer à 80% pour s'occuper de ses 3 enfants, j'ai une autre demi-sœur aussi du côté de... Enfin, que j'appelle sœur, parce que pareil, mon grand frère du côté de ma mère est en fait un demi-frère d'un premier âge de ma mère, mais que j'appelle frère. C'est plus facile, en fait, d'appeler tout le monde frère et sœur. Et du coup, qui est passé à 80% pour avoir le temps de s'occuper de suffisamment de ses enfants, qui a toujours été hyper là, dans tous les moments. Et du coup, ouais, je suis pour le coup très proche d'elle, ouais. Mais mon frère, ayant été, qui est plus vieux que moi, ayant été aussi, lui, plutôt turbulent, en fait, elle était un peu habituée. Ça allait. Et du coup, ma sœur, qui a été très calme, ça lui a fait bizarre.
Peut-être qu'elle s'est dit qu'il y aurait un piège et que ta sœur aussi, elle allait finir par vriller.
Elle a fini par être un peu plus turbulente après.
Comme quoi. Et avec ton grand frère, tu dis qu'il est plus vieux, il a combien d'années en plus ?
On a 8 ans d'écart, donc lui a eu ses 40 ans cette année. Bon anniversaire, ah ouais, okay, Frédéric, c'est... encore une fois.
Bon anniversaire, Frédéric, tout à fait. Et du coup, comment ça s'est passé, votre lien de frère avec 8 ans d'écart ?
Alors, c'est vachement... ça, c'est une bonne question, parce qu'en fait, c'est une fraternité qui s'est fait vachement sur le tard, enfin, qui s'est fait sur le tôt. Dans le sens où, mais finalement, pour lui, beaucoup plus de souvenirs de son côté que moi, parce que moi, étant très jeune, souvenirs un petit peu plus vagues, et après qui s'est refait énormément sur le tas en devenant plus adulte et en construisant, enfin, une nouvelle relation. Mais je pense que de toute façon, quand tu deviens adulte, tu crées une nouvelle relation avec ta famille, parce que tu rentres dans des discussions qui sont forcément un peu différentes. Et on est très proches aussi, ouais. Donc, mais globalement, je suis très proche de toute ma famille, parce que on est assez soudés.
Est-ce que tu, du coup, t'as des vraies discussions avec ton frère où vous parlez vraiment, parce qu'on a beaucoup, on a pas mal d'invités qui ont du mal à communiquer honnêtement avec les hommes de leur entourage et qui restent beaucoup en surface, tu vois, mais qui parlent pas des vraies choses. Est-ce que c'est le cas pour toi ou est-ce que vous arrivez à parler?
Moi, avec mon frère, en tout cas, ouais, on est capable de parler d'à peu près n'importe quoi assez profondément. Après, mon frère, en plus, a un job assez particulier, c'est qu'il bosse dans une association qui s'occupe de l'intégration des gitans dans les quartiers nord de Marseille. Donc, c'est quelqu'un qui est très très fort en communication. C'est un peu un maître sensei pour moi. Et du coup, on est capable d'établir une super communication. Parce que je crois que je connais personne qui communique aussi bien avec les gens, en fait. Et du coup, à partir de là, t'es capable effectivement d'avoir des discussions qui sont sensées, profondes, franchement utiles. Non pas que toute discussion doit être utile d'ailleurs, mais en tout cas toujours très intéressante et du coup beaucoup ce qui est par exemple pas le cas avec avec d'autres gens, que mais j'ai aussi déjà capable d'avoir des discussions suffisamment profondes avec des amis mecs aussi, notamment mon associé Kim qui j'avais fait Horace, on est capable d'avoir des discussions aussi, donc ça dépend, mais globalement j'arrive plutôt à mal parler avec mes potes.
Cool. Des mecs qui parlent, c'est rare.
Il n'y a pas un aspect aussi peut-être de différence d'âge avec ton frère qui fait que vous n'avez pas vraiment grandi ensemble en fait. En tout cas, lui, ouais. il était j'imagine qu'il était loin de toi. Quoi. Quand tu avais 10 ans, il avait 18.
Ah ouais, grave. Bah, en fait, quand je suis au collège, en fait, lui, il se barre à l'université à Nanterre. Et en fait, il part en CTU. Donc en fait, je le vois pas. Tu vois, donc en fait t'as tout un... et après en plus donc on le voit, enfin on le voit parce qu'il vient, il a énormément voyagé en plus, donc après des longues périodes d'absence aussi, et en fait moi à la fin de du lycée je vais en classe prépa, et à la fin de la classe prépa je pars au Canada. Qu'en fait, après, même pendant longtemps, en fait, relation à distance aussi, mais du coup en fait la relation à distance elle t'oblige à parler. En fait, parce que vu que tu vois moins les gens et que finalement ils sont moins dans ton quotidien, t'es obligé de te raconter plus de choses, quoi. Parce que si tu restes en surface, c'est super chiant comme discussion, quoi. Et finalement, tu les fais pas. Et du coup, en fait, t'as... enfin, en tout cas, je vais pas forcément généraliser, mais en tout cas, moi, ça m'a obligé à établir des discussions un petit peu plus sérieuses et profondes. Parce que, en fait, t'es loin, quoi. En fait, t'as été loin en âge à un moment, et puis après, t'as été loin en distance, donc en fait, tu te mets à parler hyper librement. Enfin, mon frère, si on s'appelle, on se parle 2 heures, quoi. C'est-à-dire, on est 2 heures au téléphone, et on se parle une fois par semaine, minimum. Enfin, au téléphone, plus des nombres de textos assez conséquents. Donc voilà, ouais.
On va parler des amis, on va parler de la famille. Parlons des amours. Comment ça s'est passé ta vie amoureuse, enfin les débuts de ta vie amoureuse, donc j'imagine au collège, lycée Ou plus tard, peut-être.
Ben non, ma première histoire amoureuse, c'était avec Elodie en maternelle.
J'aime bien comme tu name drop les gens. J'imagine tous les gens écouter et faire et il a parlé de moi.
Que j'avais essayé de Facebooker à un moment en me disant on retrouve tout le monde sur Facebook, jamais retrouvé. Et en fait.
Le problème avec les filles, c'est qu'elles changent de nom aussi. Tu vois, quand elles se marient, peut-être.
Ouais, et puis les gens ont vachement pris la vue sur Facebook de pas mettre leur. Enfin, de commencer à mettre des faux noms, pour des raisons assez évidentes. Et du coup, jamais retrouvé. Non, assez normal. Premier flirt au collège, enfin voilà, tout au lycée.
Ouais, t'avais du succès avec les filles ? Est-ce que t'étais plutôt timide, plutôt dragueur ?
J'étais timide dragueur.
Ça existe ?
Non, mais dans le sens où... je suis pas le genre de mec à aller voir une meuf assise à un bar et la phaser, quoi. C'était pas... je trouvais ça naze, je trouvais ça tellement forcé, je trouvais ça me correspondait pas. Et timide parce que quand une meuf te plaît, t'as jamais envie, tu dis toujours putain attention, il faut pas que je fasse une connerie, je vais me griller, après c'est mort. Alors qu'en fait bon non, tu peux dire une connerie et finalement ça va. Et puis après ça j'ai compris que tu pouvais à un moment dire une connerie et que tu pouvais te rattraper. Et voilà, et après mais j'étais très boîte de nuit, mec sous, à choper sous parce que c'était la boîte de nuit en dansant, de manière, tu danses en fait. Tu danses, tu chopes. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai chopé ma copine.
On l'embrasse aussi.
Non mais Adeline, je t'aime, salut. En dansant sous quoi. Enfin on se connaissait un peu d'avant et c'est comme ça. C'était mon move pendant un moment, ouais. Jusqu'à Adeline, puis après j'ai arrêté quoi.
Quand même qu'elle le sache si elle écoute. Tout va bien. Et les filles que tu chopais bourrées en boîte de nuit, est-ce que c'était plutôt des coups d'un soir que tu rappelais pas et dont peut-être tu te souvenais pas exactement du prénom, ou est-ce que c'était des relations un peu plus suivies?
Tout, c'est pas parce que j'avais pas d'a priori sur le fait que si tu rencontre une meuf sous dans un cadre de boîte de nuit, c'était forcément l'un ou l'autre, donc ça dépendait. Et ça dépendait, est-ce que on se connaissait d'avant ou pas, ça dépendait de comment on s'entendait. si on s'entend bien, je pense qu'il faut toujours donner sa chance, quoi. Tu vois.
Ouais, la preuve, t'es encore avec.
Oui, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, donc.
Ah ouais. Voilà. Pas avoir d'a priori, quoi, tu vois.
Ah bah, c'est sûr.
Et donc, non, c'était plutôt. Non, j'ai eu des coups d'un soir et des trucs très sérieux grâce aux boîtes de nuit, dont ma compagne actuelle. Donc, la preuve que peut être très sérieux en boîte de nuit.
C'est marrant, on n'a pas eu beaucoup d'invités qui nous ont parlé de soirées en boîte. Et bah, c'est un endroit où les rôles genrés sont quand même assez clairs. Et notamment, c'est plutôt les mecs. Alors, ça change, mais c'est plutôt les mecs. On attend que ce soit eux qui aillent faire la démarche de pécho. Et les meufs sont plutôt apprêtées. Et elles attendent, du coup, de voir qui va essayer. Comment tu... Déjà, est-ce que pour toi, c'est une réalité le fait que les mecs vont plutôt être attendus dans l'action et les meufs dans la réception?
Alors en France,
mais
ouais.
Il chope plus depuis 8 ans déjà, donc il est.
Mais
il
à
est
son époque.
Non, mais j'ai une bonne mémoire. Et la preuve, je suis capable de vous donner les noms de pas mal de gens avec qui j'étais en maternelle.
Mais c'est plus vraiment up to date, tu vois, parce que maintenant il y a MeToo qui est passé, etc. À mon avis, il y a des choses qui ont changé, quoi. Non, je crois pas.
Je suis pas sûr que dans les boîtes de nuit de Melun, ça ait beaucoup changé depuis.
Alors je suis très peu sorti en boîte de nuit à Melun. Hein. Je suis allé très rapidement en boîte de nuit à Paris. Hein, dès le lycée quand même.
T'as vu comment il t'a
regardé? Non, mais parce que les boîtes de nuit à Melun, il n'y avait pas grand chose, quand même.
J'imagine.
Voilà. Et en fait, alors, pour le coup, et pour répondre à tes questions, je trouve en France, ouais, j'ai toujours retrouvé ça. Et après, j'ai fait aussi 6 mois d'échange universitaire à Helsinki. Et où là, c'est vraiment l'inverse. Et c'était hyper étonnant. C'est-à-dire que tu te faisais draguer, en fait, en tant que mec. Et très, très ouvertement, quoi. Et du coup, c'est assez plaisant quand ça t'est jamais arrivé. T'es là, genre, waouh, tout, c'est cool. Non, mais j'ai rien à faire et tout. Et,
c'est le turfu, hein, c'est les Scandinaves.
Et je trouve que. Et après, en fait, en te rendant un petit peu compte, je te rends compte finalement aussi avec le recul que t'as des meufs qui, même à Paris, qui draguent en boîte, en fait, juste. Elles sont en général un peu plus subtiles qu'un mec bourré, quoi.
Ce qui est voilà. Large.
En fait, c'est pas mal ça. C'est qu'il y a souvent une subtilité qui est un peu plus prononcée chez les meufs dans le relationnel et quand même. Et du coup, en fait, t'as des nanas même en France qui draguent. Mais c'est juste que c'est un peu. C'est différent, mais en tout cas, en Scandinavie, c'est assez, carrément inversé en fait, et c'est super étonnant. Donc c'est comme quoi, bon, voilà, c'est peut-être qu'un jour, ce sera comme ça en France, c'est différent peut-être. En Scandinavie.
Peut-être que notre culture latine va apprendre à laisser un peu plus de place aux meufs pour pécho.
Ça serait bien, ouais.
Oui, au moins 50-50, ce serait bien. Du coup, t'as jamais fait les applis de rencontre, les trucs comme ça ?
Non, alors moi non, parce que je suis en couple pré-Tinder, etc.
Les couples d'avant.
Et ceci dit, j'ai fait du adopte un mec. Et j'ai fait du réseau social, parce qu'en fait, MySpace, c'était quand même pas mal ça, déjà. Avec, tu t'as un top 8, tu transformes en top 16 et tu mets la meuf que tu veux pécho en numéro 1 ou en numéro 2 pour que ce soit pas trop évident. Tu vois.
Et, les stratégies subtiles.
Voilà, subtilité masculine.
Oh, je faisais pareil sur MSN, tu sais.
Voilà,
je
non, mais ou MSN en fait. Donc en fait. C'était un peu similaire, mais j'ai jamais fait le truc du swipe que je trouve un peu trop, un peu supermarché quand même. Enfin, à force de plus, t'as des apps où tu peux swiper genre 10 profils par 10 profils, quoi. Qu'un truc hyper de mec, de je match tout et je vois ce qui me répond, quoi. Qui est quand même un truc un peu, affligeant.
Bah, sur Adopt, t'avais déjà le côté je fais mon marché, je mets dans mon panier, mais plutôt côté meuf, je crois.
Ouais, mais en fait, tu l'avais du. Pour le coup, c'était un truc côté meuf. T'avais quand même un truc où. En tout cas, il y avait une volonté. Après, dans la forme, on peut être d'accord ou pas, enfin, on peut débattre sur tout, mais en tout cas, il y avait une volonté de. Que la meuf soit plus décideuse et donc évite quand même le mec un peu relou qui va faire un send nudes ou dick pic direct aussi. Et pour le coup, c'était, je trouve que c'était mine de rien plutôt novateur comme truc. Après, ça restait un site de rencontre un peu. Enfin, c'est un site de rencontre quoi. C'est jamais. Ça dépend beaucoup des gens sur qui tu tombes quoi.
Oui, on peut pas révolutionner le monde avec un site de rencontre, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était plutôt. Ouais, c'était plutôt novateur de faire un site de rencontre qui dit c'est les meufs qui choisissent. Après, maintenant, ça fait quoi, 10-15 ans qu'Adopt existe, c'est un peu moins surprenant, je pense.
Mais le Bumble, c'est ça, non? Le truc a été monté par la nana qui a quitté Tinder parce que Tinder est une boîte de gros porcs.
Apparemment.
Bumble, c'est un peu ça, non? C'est un peu un espèce de néo Tinder où la meuf est plus décideuse.
C'est possible, mais il y a pas mal d'applis dans le genre. Là, il y a eu
Pickable,
tout à fait, dont on a été partenaire pour la sortie en France, où en fait les meufs ont pas de profil. Il y a que les gars qui ont un profil, et la meuf, c'est la meuf qui dit, en gros, elle signale au gars qu'elle veut lui parler. Et c'est là où le mec, en fait, la découvre et peut lui demander des photos et tout, mais d'accord. De base, les mecs ne peuvent pas swiper, en fait. Ils voient pas de profil. Et toi, t'en as pas, et c'est à toi de choisir les mecs avec qui t'as envie de parler. Bon, pour l'instant, c'est que à sens unique. Peut-être que ça, qu'il y aura les deux, genre, est-ce que tu veux un profil ou pas, peu importe si t'es un homme ou une femme. Mais c'est intéressant, et la volonté, c'est justement d'éviter aux meufs d'avoir des dizaines de messages plus ou moins polis, on va dire. Et des mecs qui swipent à tout va, juste parce que, bon, bah, on verra ce qu'on remonte dans les filets. Alors du coup, pourquoi les cosmétiques pour hommes? Car c'est un sujet qui me passionne.
Mais plein de raisons. Enfin, la première, c'est qu'en fait, je suis utilisateur de produits depuis jeune, en fait. D'une part, parce que, bah, ayant grandi avec ma mère, j'ai vu ma mère utiliser des produits et je me suis pas posé la question si c'est un truc pour mec ou pas. Enfin, en fait, j'ai utilisé. Et qu'en plus, ma mère a toujours proposé en fonction... Ah, t'as des boutons, tiens, utilise un masque d'argile. Elle m'a épilé mon duvet de moustache. C'était très grand moment. J'utilisais du LCF pour me raidir les cheveux au lycée. Donc, j'étais toujours un peu très ouvert à ce genre de produit et très curieux. Et en fait, un jour, je me retrouve, enfin, on en discutait avec Kim en trouvant que c'était assez... on se reconnaissait pas, en fait, globalement dans les marques, parce que t'es un peu coincé entre d'un côté Nivea qui te réduit à j'aime le foot ou j'aime la F1. Alors j'aime le foot, hein, j'aime du PSG depuis que je suis enfant, hein, donc voilà, je me reconnais pas forcément dans une Real Di Maria qui s'hydrate les coudes, et en même temps
t'as la ref ou pas?
Absolument.
C'est un milieu ailier du PSG qui est du coup dans les pubs Nivea, parce que Nivea est en partenariat avec le PSG, qui s'hydrate les coudes dans la pub. Voilà.
Je me suis rarement hydraté les coudes dans ma vie.
Alors c'est une des zones très sèches, c'est pour ça.
Peut-être que je devrais m'hydrater les coudes.
C'est une zone très très sèche.
Je suis en train de tâter mon coude pour voir s'il est sec.
Et de l'autre côté, des marques comme Aesop qui sont... très bien à plein de niveaux, mais qui sont très abstraites pour un mec, en fait, qui s'y connaît pas, qui a pas forcément envie d'investir un temps incroyable et a fortiori de l'argent quand on parle d'Aesop dedans. Et on s'est juste dit qu'on avait envie de créer une marque dans laquelle on se reconnaît, en fait, en tant que client, dans lesquels nos potes pourraient se reconnaître aussi, peu importe qui ils sont, en fait. Et en fait, voilà, on l'a fait comme ça, quoi.
Comment vous avez réfléchi au marketing? Parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup sur Mademoiselle et dans la société en général, le marketing genré, et le fait que souvent les produits pour hommes, c'est genre noir et pétrole avec du bleu métallisé, il y a marqué genre puissance et taurine, et alors que c'est juste genre une crème hydratante, tu vois, calmez-vous.
Alors,
c'est une crème hydratante de bonhomme aussi,
c'est
d'accord.
C'est pas une crème hydratante pour les meufs.
Parce que les bonhommes, ils s'hydratent pas.
C'est très énergie 3000, la boisson des vrais bonhommes. Non, bref, c'est vraiment ça.
Oui, c'est vrai.
Vos packaging sont plus sobres, déjà.
Oui, ils sont bleus.
Ils sont bleus quand
pas
même.
Que pas tous, mais ils sont bleus quand même.
Quand vous avez créé votre image de marque pour vous positionner et que ce soit clair que c'est pour les mecs, mais on va peut-être pas aller à fond dans le musc.
Alors, en tout cas, déjà, l'idée, c'est de faire... Ouais,
le musc.
Mais c'est, non, mais c'est vrai, mais en même temps, c'est des blagues, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui ont littéralement des gels douche à la taurine et qui t'expliquent que vraiment c'est énergisant. La taurine n'ayant aucune preuve, il n'y a aucune preuve scientifique que ça fonctionne quand tu le bois déjà. Donc en produit rincé, c'est un petit peu plus délicat à prouver encore. Et en fait, nous on est juste parti sur un truc très simple en disant qu'est-ce qu'on aimerait avoir. On l'a fait bleu nuit au début, enfin en fait qui est la couleur principale, qui est en fait évidemment c'est une rêve de mec assez basique, mais en fait c'est aussi parce que c'est une rêve en fait au smoking, parce qu'un smoking en fait tu le choisis bleu nuit et pas noir, parce qu'en fait c'est plus noir que le noir à la lumière tu ne ressembles jamais à un garçon de café. Donc c'est le choix
vous
du bleu
fait,
nuit.
Le smoking bleu nuit.
Et
pas du tout.
Donc on est parti sur le bleu nuit pour ça, et après voilà. Ceci dit, après t'as des réalités qui la testostérone fait qu'un mec a la peau plus grasse. en fait, à la peau plus épaisse, donc plus grasse. Donc à partir de là, t'as besoin de produits qui sont plus assainissants, qui régulent plus le sébum que des produits pour femmes. Et après, t'as des problématiques cheveux qui sont quand même un peu différentes, notamment le fait qu'on les perde, le fait que voilà, non mais c'est le fait, tu vois, et qui sont, ou que les pellicules, qui sont un truc hyper masculin, en fait, souvent, donc t'as quelques différences, et après, on a bossé en se disant qu'est-ce qui nous plairait, en discutant pas mal avec les mecs, et en prenant leur feedback, ce qui fait qu'on a créé un truc de mec sans, je pense, être dans un cliché de mec, en fait.
Comment vous êtes rencontré avec ton associé?
On a fait la même école à Montréal, qui s'appelle HEC Montréal. Mmh. On est arrivés un peu tous les deux par hasard. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé là, je savais pas pourquoi. C'est ma mère qui m'a dit, va en classe prépa. Je fais OK. Et je suis arrivé, je sais pas quoi faire. Je voulais faire ingénieur du son ou aller en fac d'histoire. Voilà, je suis allé. Et lui, il savait pas s'il allait en école d'ingé. Mais du coup, il est en école de commerce parce qu'il y avait un profil d'ingé, un profil très ingénieur à Montréal. Et on s'est rencontrés direct, en fait, les deux premiers jours en arrivant, et on s'est retrouvés dans le même groupe d'intégration, parce qu'évidemment, en école de commerce, il y a des intégrations. Et évidemment, t'avais des jeux pour gagner, et on faisait tout pour gagner, quoi. Donc voilà. Au point de finir en caleçon dans une fontaine, pour faire la meilleure photo, enfin voilà, tout ce qui pouvait faire gagner, quoi. Esprit, un peu esprit de compète, ouais. mais version déconneuse, ça va.
Ok. Est-ce qu'il y avait des trucs chelous dans vos soirées d'intégration parce qu'on entend parler parfois de rituels masculins bizarres à base de couilles sur le front et tout ça, qui sont très genre bizarrement sexuels, mais plus dans l'humiliation qu'autre chose.
Alors, moi j'ai jamais vu ça. Ceci dit, full disclaimer, moi je me suis barré de l'intégration après une journée. Ça m'a saoulé en fait. Le truc de on te met la tête dans des trucs des fouillis de bouffe divers et variés et tu pues, je fais non, en fait je m'en bats les reins, j'ai pas besoin de ça pour m'intégrer en fait, donc c'est bien, j'ai vu, je ne reviendrai pas, et voilà. Donc en fait j'ai très très peu vu ça. Après je pense qu'il y a une différence de culture de l'intégration en France et au Canada. J'ai l'impression que c'est vachement plus graveleux en France que ça peut l'être au Canada. Même si j'ai l'impression que c'est pas beaucoup plus intelligent l'intégration en Amérique du Nord quand même, sur l'intégration scolaire. Mais moi, je suis barré, quoi.
T'as quand même réussi à t'intégrer?
Ouais, ouais, très très bien. Très très bien. Je l'ai fait j'allais parler aux gens, je me parlais aux gens pendant les pauses et à la fin des cours, et puis ça marche, en fait.
Je pense aux étudiants qui viennent d'arriver, tu vois, et qui écouteraient et qui diraient « Non, faut que j'aille jusqu'au bout pour m'intégrer, sinon je serais pas
intégré. » J'aurais jamais d'amis, je serais tout seul.
Non, c'est pas vrai, quoi. Non, mais c'est vrai, mais je pense que c'est hyper important. Bon, hein. Enfin,
ouais, de le dire.
Les trucs d'intégration, c'est globalement juste un truc pour en fait humilier le plus jeune, pour rappeler que toi, t'es arrivé avant et créer une pseudo, enfin, c'est une pseudo tradition, ça n'a absolument aucun intérêt, quoi. À part, en général, mettre les gens hyper mal à l'aise, créer des situations qui peuvent être, enfin, très problématiques pour des mecs ou des nanas, enfin, ça n'a absolument aucun intérêt, quoi.
Et ton associé, il s'est barré lui aussi alors ou...
Je crois que lui, il l'a fait un peu plus, mais pas plus que ça, quoi. Pas plus que ça non plus. C'était pas. Enfin, je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien. On n'a pas cherché à s'intégrer particulièrement de cette manière-là.
Et donc, vous avez fait l'école ensemble, c'est ça?
Ouais.
Et en quittant l'école, vous avez décidé de monter Horace ou c'est venu plus tard?
C'est venu plus tard. En fait, on a fait un premier diplôme, enfin de master grande école. Moi, je suis rentré en France, en fait, pour travailler un peu. Je suis reparti faire un master spé là-bas en anthropologie de la consommation, dans mon école, en fait, qui est une école de commerce aussi. Et lui faisait un master spé en technologie de l'information en même temps. Et on s'est remis en colloque, on a fait des road trips, on était déjà très proches, en fait. Et puis, moi, je suis parti à Toronto. Lui, il est resté à Montréal. Ensuite, je suis re-rentré en France. Et puis, on s'en est reparlé. Enfin, on était toujours en contact très régulièrement. Un jour, on s'en est reparlé, et puis voilà, quoi. Donc c'est même pas un truc. Je fais pas partie de cette génération de gens qui aujourd'hui font des écoles de. Enfin, qui est en train de dire cette génération où je dois absolument faire une boîte parce qu'au moment où je sors de l'école, en fait, moi, c'est mais juste un peu tombé dessus, quoi.
Tu faisais quoi avant, du coup? Tu faisais quoi comme genre de job?
J'ai fait du marketing chez Vans, au niveau France et au niveau Europe. Et après, j'ai fait pas mal de conseils pour des marques de prêt-à-porter, mode, pendant un moment, en marketing et digital. Puis pour des marques plus grand public, genre des Google, des Dulux Valentine, la peinture, la Panthère. Je sais qu'ils veulent pas qu'on dise ça, mais désolé les gars, tout le monde se souvient de la Panthère.
C'est pas grave.
Et voilà, en fait. Et du coup, j'avais monté entre guillemets une boîte parce que j'avais fait du conseil par moi-même à un moment, mais c'était plus par flexibilité.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Éviter que par volonté entrepreneuriale particulière, quoi.
Et avec Kim, vous avez pas eu peur que, enfin, ça peut vraiment mettre en péril une amitié de s'associer au niveau professionnel et financier, du coup?
Ouais.
Est-ce que vous en avez parlé ou vous êtes parti confiant en mode...
Ouais, l'avantage, je pense que là, t'as un énorme avantage à t'associer avec quelqu'un qui est un de tes meilleurs amis, c'est que tu le connais très très bien, que du coup, enfin, t'as une relation de confiance qui est... vraiment, tu le connais suffisamment bien pour savoir si tu peux... à quel point tu peux lui faire confiance. En l'occurrence, c'est quelqu'un à qui je peux faire extrêmement confiance. C'est aussi quelqu'un dont je connais les qualités, dont je connais les défauts, et c'est réciproque. Et du coup, ça facilite vachement les choses, et on se connaît aussi suffisamment pour faire la part des choses. C'est-à-dire que...
Vous connaissez depuis quoi, d'ailleurs?
Ça fait 15 ans, en fait, quasiment. Donc, en fait, à un moment, t'es aussi... Tu peux ne pas être d'accord sur des trucs pro...
Presque la moitié de ta vie.
Grave. J'ai 32 ans, donc quasiment. Et en fait, du coup, tu peux ne pas être d'accord sur les trucs pro, et c'est pas grave, et très bien t'entendre d'un point de vue perso. Donc ça, c'est plutôt plutôt cool. Et je souhaite à beaucoup de gens de monter une boîte, en fait, avec quelqu'un dont ils sont aussi proches. Je pense que c'est beaucoup plus facile, en fait.
Mais c'est aussi plus dangereux. C'est-à-dire que quand ça commence à chauffer...
Ah, c'est pour ça qu'il faut réussir.
Acheter des produits au racine, ils vont se fâcher.
Non, achetez-les parce que c'est bien.
Oui. Hydratez-vous les coudes.
Mais disons que ouais, tu, effectivement, tu mets un risque. Mais de toute façon, t'as plein de risques quand tu montes une boîte. Enfin, donc oui. En fait, à la limite. Mais en même temps, je pense que t'as moins de risques dans cette configuration qu'avec un mec ou une nana que tu connais pas en fait, et où du coup, tu sais pas comment la personne bosse, à quel point tu peux la faire confiance, sur quoi tu peux lui faire confiance. Donc voilà. Et après. C'est aussi de la chance, hein, et du hasard, hein. Ouais, tu mets plein de choses. Non, mais dans le sens où, on aurait pu ne pas être potes, on aurait pu ne pas être amis, on aurait pu pas se rencontrer, on aurait pu faire le truc ensemble et que ça marche pas. Enfin, voilà, ça a marché, c'est toujours plus facile quand ça marche. Non?
Une belle devise. Quand ça marche, c'est plus facile. Bah oui. Vous avez pas encore eu de. Je vous le souhaite pas, mais du coup, vous avez pas encore eu de gros écueils qui vous fait vraiment remettre en question beaucoup de choses.
Globalement, tout va bien. Non, vraiment, pour le, non, mais ouais, pour le coup, non, tout va bien, quoi. Donc, ça va.
Cool.
Vous avez monté ça il y a combien de temps?
La marque existe vraiment depuis 2 ans. On a lancé nos 2 premiers produits nettoyant visage, hydratant visage, matifiant, le 14 novembre 2016.
Et c'était quoi la réception, du coup? C'est qui vos clients?
Alors, on a un pop-up en ce moment, 16 boulevard des Fils du Calvaire. Et en fait, pour le coup, c'est un truc qui nous a toujours fascinés. On a des mecs hyper différents. T'as des étudiants qui ont 19 ans et qui sont des power users de produits. Des mecs de 50 ans qui s'y connaissent un peu moins. Des mecs qui achètent leur premier après-shampoing. T'as vraiment vraiment de tout et ça a toujours été super cool en fait d'avoir de et avec en plus et même à plus globalement des gens qui ne sont pas forcément enfin qui sont partout en France en fait pour en tout cas les gens qui achètent en France et ça c'est super super cool. On a toujours voulu faire un truc qui soit suffisamment inclusif pour que si tu es quelqu'un qui est très gros utilisateur ou novice ou que tu sois intéressé par le produit de visage ou des produits de cheveux, tu puisses t'y retrouver quoi. Et en fait c'est le cas et ça c'est super super touchant en fait.
Est-ce que avec le recul est-ce que tu te dis que ce serait bien que les hommes soient plus éduqués à prendre soin d'eux comme on dit? parce que j'ai pas l'impression que c'est un truc qui est très courant. Comme tu dis, t'as des mecs de... Je pense qu'il y a peu de meufs de 20 ans qui ont jamais acheté d'après-shampoing, tu vois. Généralement, tu t'y mets plus tôt.
Est-ce que tu... qui se passe de mère en fille, en fait, alors que je pense que les darons, ils expliquent jamais. Bah, toi, tu vois, tu...
Non, tu n'as pas c'est... the talk. C'est vrai, moi, avec mon père, j'en ai jamais parlé, quoi.
Voilà, enfin, tu dis que c'est ta mère qui t'a...
Ouais. Enfin, je sais pas, toi, non plus. Alors, tu
vois. Ton père, il s'hydrate pas les coudes?
Alors, non. Il m'a jamais donné de conseils cheveux aussi.
C'est Non, mais t'as peut-être eu le rasage. Non.
Même pas.
Tu vois, non. Ouais, voilà.
Je suis un berbe, mon pote.
Donc, ouais, c'est ça, c'est en fait, même chez les mecs, même le rasage, en fait, c'est un truc qui est pas hyper expliqué, quoi. Et je sais pas si c'est bien ou pas. En tout cas, je pense que t'as un truc qui fait du bien parce que c'est un geste de bien-être dédié à soi qui est forcément. En tout cas, moi, je trouve agréable. Quand je mets de l'après-shampoing, j'ai des beaux cheveux, donc je suis content. Tu vois, après, je pense qu'il y a plein de mecs qui ont plein d'a priori, qui sont des a priori construits et relativement récents, hein, parce qu'en fait, finalement, sans aller très loin, et en la Renaissance, les mecs avaient des perruques et du maquillage et des... Et des faux grains de beauté, donc ils étaient groomés. Mais c'est plutôt récent que pour un mec, ça, tu devais pas entre guillemets utiliser des produits, donc ça va et vient régulièrement. Et s'il y a des gens qui sont contents d'un côté comme de l'autre, tant mieux. Mais je pense qu'il et en fait, je pense que globalement, les mecs sont assez ouverts. Enfin, en tout cas, nous, des discussions qu'on a avec les gars, en fait, les mecs sont, t'en as plein qui sont très ouverts. En fait, juste à partir du moment où tu leur expliques et que tu leur en parles et qu'ils comprennent à quoi ça sert et tout, ils disent bah ouais, pourquoi pas. C'est pas évidemment, t'as des mecs qui ont des a priori. On a des mecs un peu, on a des commentaires un peu stupides sur nos pubs Facebook de temps en temps, tu vois. Mais comme tout le monde, c'est le principe de Facebook.
Et à quoi ils ressemblent ces commentaires?
Bah, t'as un très bon exemple. Quand on a lancé nos produits, un grand nombre de nos produits corps. Notamment du coup quand on avait fait un shooting photo c'était en mars de cette année, pour nous c'était évident d'avoir tout type de mec en termes de voilà, physique, couleur de peu et tout. Et laisse tomber la déferlante, quoi. C'est-à-dire que quand tu commences à les sponsor sur Facebook, regarde, il est tout mince, il a pas de poils, c'est pas un mec. Ah, regarde, il est gros. Non, mais vous avez pas mis de mecs qui ont suffisamment de poils. C'était là, genre, putain, mais les gars, quoi. T'as tout, quoi, de la grossophobie, de l'homophobie, tout ce que tu veux, quoi. Tout y passe avec des mecs qui étaient gênés de voir des mecs torse nu, en slip, oui. Et tout, en mode non, mais pourquoi vous montrez ça? Non,
mais, comme quoi, et c'est cool, parce que moi, c'est pas sexiste, tu vois.
Ouais.
En tant que meuf.
C'est de l'autodénigrement de son.
Ouais, mais c'est de la haine de soi, bizarre. Tu vois, parce qu'en fait, t'as un moment où les mecs ils disent ah, mais montrez-moi que des gars bodybuildés, ça m'inspire. Bah, en fait, ouais, mais en même temps, c'est aussi bien que les gens s'acceptent aussi comme ils sont, et puis tout le monde n'a pas envie d'être bodybuildé, tout le monde n'a pas une physionomie hyper musclée aussi, enfin.
Ah, t'as vraiment des mecs qui vous ont dit...
Ah ouais, j'ai envie de voir des mecs musclés. Tu vois, et
c'est un vrai truc qui revient dans la pub en général pour notamment les mannequins, lingerie, etc. C'est que l'un des trucs qui fait que tu mets une meuf gaulée et une meuf normale, entre guillemets, normalement gaulée, de la vraie vie. Et en fait, les chutes, enfin les ventes, pardon, des produits dégringolent, quoi. C'est dramatique, hein. Projette pas un truc suffisamment, ça donne pas assez d'envie, quoi. Voilà.
Et on espère que ça va changer. Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que les mecs étaient hyper surpris qu'on fasse ça, alors que par exemple Dove le fait depuis 20 ans, quoi. Enfin, Dove, ça fait 20 ans, mais en tout cas, ça fait plus de 10 ans que t'as une bande de meufs hyper différentes dans leur pub, et tout le monde trouvait ça cool. Et là, tu as un truc un peu similaire pour des mecs, et les mecs sont là, ah, non, et tout. Plutôt, je vais reformuler, je vais prendre un peu de recul. Globalement, les gens étaient très très contents. Mais évidemment, t'as toujours une frange vocale. Mais après, ce qui était du coup bien, c'est que t'as eu des débats, quoi. Avec vraiment des mecs qui se répondaient, des clients qui disaient, non mais attends, en quoi t'es gêné de voir un mec torse nu, alors que quand tu le vois à la télé, un mec musclé, en fait, tu trouves ça ok. Là, juste, tu vois un corps différent, du coup, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, en fait, ça a créé de la conversation, beaucoup de conversation. Et ça, c'est super bien, parce qu'en fait, en vrai, je pense qu'on en est là. C'est qu'à un moment, il faut aussi faut que les marques soient aussi des plateformes pour, à un moment, faire bouger le chemin public, là. Et comme, salut les années 90. Et nous, on essaie de le faire à notre mesure, en fait. Et tu te rends compte qu'il y a du taf, quoi. Enfin, comme on a fait une pub dans le métro, où c'était trois mecs qui sont...
Je les ai vus sur les réseaux sociaux, ça a parlé.
Et trois mecs qui sont des mecs qu'on connaît bien, qui sont partis de nos proches, etc. Et t'avais, voilà, un blanc, un renois, un rebeu. Et c'était, une pub Benetton. T'es là, genre, putain, Benetton, ça a 30 ans, les gars, quoi. Genre,
Y a des noirs en France, je sais pas, ça fait un moment, tu vois, qu'il y en a, c'est bon, voilà. C'est juste la vie est comme ça.
Et du coup, tu sais que t'as besoin, en fait, en vrai, c'est important. Enfin, il faut continuer à le faire parce que t'en as besoin et que c'est bien que ça pose des questions, quoi, pour le coup.
Moi, j'avais vu sur mes réseaux, c'était aussi, il y avait beaucoup d'allusions au fait que les trois mecs étaient, ça faisait une pub crypto-gay, quoi, tu vois. C'est fou.
Alors ça, je l'ai pas vu.
Ah ouais, mais alors vraiment.
Et ouais, je sais pas, moi, ça m'arrive de tenir mes potes par l'épaule, quoi. Enfin, non.
Assez souvent. Ils étaient en train de se sucer la teub. Probablement pas.
Et
est-ce gay, du coup, bof.
Ouais, non, pas du tout. Enfin, c'est juste ça.
Alors que je pense qu'on aurait mis trois meufs en train de se tenir par l'épaule comme ça, ça aurait pas choqué dans l'autre sens.
Mais les mecs ont vachement de mal avec... enfin, en tout cas, on est très très loin de l'acceptation de soi que les nanas ont en tant que mec. Hein. On a du retard. Je vais pas le quantifier, je pourrais pas le quantifier en vrai. Mais on a du retard. On a du retard sur ce qu'on est capable de... Enfin, mais c'est tout le truc de bromance qui est arrivé récemment où on parle de ça. Comment c'est Schmitt et machin dans New Girl. mais c'est hyper récent. Enfin, comme si tu pouvais pas faire un câlin à tes potes, avoir des discussions super sérieuses et intimes.
Puis c'est tourné toujours un peu en dérision. Enfin, ouais. Derrière le terme de bromance, il y a cet aspect un peu... D'en rire, quoi, tu vois, pas que faut pas que ce soit trop sérieux.
Non, ça, je pense que les mecs en ont besoin pour se rassurer et tout. Après, en même temps, s'ils le font et qu'ils font des blagues dessus et que ça leur permet de le faire, tant mieux. Et c'est vrai que, ouais, enfin, c'est logique. Enfin, je sais pas, moi, j'ai tenu plein de fois par l'épaule ou mes potes, quoi. Et puis, tu sais, tu vois même des gens, enfin, par exemple, tu vas en Inde ou tu vas dans des quartiers où il y a des gens d'origine indienne, ils se tiennent parfois par la main ou. Enfin, les mecs et personne. Enfin, voilà. Ils sont. C'est pas une question d'hétéro ou gay, c'est une question juste de culture. Je pense qu'il faut un petit peu prendre du recul sur ça.
Et quand vous avez des commentaires de ce type-là, est-ce que vous répondez ou vous laissez le débat se faire de loin?
Alors, c'est une très 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 bonne question. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, comment réagir en fait? Nous, on a fait le choix de. Alors, quand c'est. Ouvertement xénophobe, homophobe, grossophobe, tout phobe, ce que tu veux là, on cache. Il y a cette fonctionnalité très très utile sur Facebook, on cache. Comme ça, à la limite, enfin, la personne voit toujours son commentaire, leurs amis, ses amis voient. Si s'ils sont d'accord, pas d'accord, ils peuvent s'en parler entre eux. Et après, quand finalement c'est agressif on laisse et en espérant que les gens en parlent en fait. C'est hyper dur en fait parce que tu sais pas quoi faire, que tu sais pas comment réagir. En fait, on veut que c'est important qu'il y ait une discussion, c'est important que les gens en parlent. Tu as envie que ça reste cordial, ce qui est difficile souvent sur Facebook, ou Twitter.
Sur Internet en général.
C'est
oui.
Pas trop des longues comments. Donc, mais c'est vrai qu'on a fait ce parti pris là. On fait attention et voilà. Après, je pense que si les gens peuvent se parler, tant mieux. Je sais pas si ça fait, mais si ça peut faire changer d'avis quelques-uns parce qu'ils se parlent, autant les laisser discuter.
Oui, c'est à peu près la voie qu'on a choisie aussi, c'est que à part quand ça insulte directement l'auteur d'un article, par exemple, on supprime, mais sinon on va pas tout cacher pour faire comme si on vivait dans un monde où ça y est, tout le monde est d'accord, on a gagné. Et souvent, en fait, oui, ça fait des débats. On a le temps que moi ou l'autre CM, on voit le commentaire. En fait, le débat est déjà fait. Tu vois, on a plus trop besoin d'intervenir. Donc, des points de vue s'échangent, les gens réfléchissent. C'est super. Tu parlais d'acceptation de soi, tu disais que les mecs avaient un peu de retard sur la question. Est-ce qu'il y a des complexes qui reviennent souvent parmi vos clients ou parmi les mecs que tu connais? C'est quoi les complexes majeurs des mecs?
Le complexe de base physique, t'es trop mince ou t'es trop gros, c'est un truc un peu classique aussi. T'as les questions du poil qui revient souvent chez les mecs. Je suis pas assez poilu ou je suis trop poilu. voilà, les gens en Turquie qui se font implanter la moustache. Non, mais c'est vrai, parce que c'est un signe hyper viril, du coup tu fais des implants de moustache. Enfin, c'est.
Je suis en train de t'imaginer avec une moustache,
Donc,
ça c'est un truc assez récurrent, mais ça c'est des trucs que j'ai pas qu'on n'a pas forcément avec les clients, parce que on n'est pas un truc de sport ou on n'est pas un truc d'épilation. Après, un truc très récurrent chez les gars, c'est tout ce qui est cernes et poches sous les yeux. Rides, c'est un truc assez classique, mais globalement ça va. Mais les poches sous les yeux et les cernes, c'est un truc qui vraiment stresse énormément, enfin beaucoup de mecs. C'est une des principales chirurgies esthétiques réalisées. Chez les mecs, je crois que c'est la deuxième, enfin peut-être la troisième, je crois que c'est pénis, liposuction, poche, dans l'ordre.
Tu savais, c'est
non,
fou.
J'apprends quelque chose.
Et du coup, c'est un vrai, vrai sujet. Après, t'as les cheveux de « je commence à les perdre ». Mais bon, ça, je crois que les mecs, c'est un peu plus facile parce que tout le monde accepte de toute façon que c'est un peu le futur de tes cheveux quand t'es un homme, qu'ils disparaissent.
Après, quand le futur, il commence tôt, bon.
Oui, voilà, mais après, c'est compliqué pour des mecs chez qui ça commence tôt. Moi, j'en ai des potes chez qui ça a été hyper tôt et t'as un moment d'acceptation qui est... T'as des chapeaux, en général, pendant longtemps. Moi, j'ai une casquette, hein, mais j'ai la chance de, pour l'instant, en avoir. Ça, c'est un truc assez récurrent. Et après, l'acné. L'acné qui est un truc assez... souvent plus chez les ados. Mais on a beaucoup de clients qui nous parlent de comment ils sont passés par Roaccutane, qui est un traitement hyper agressif pour régler le problème d'acné, qui, du coup, assèche énormément la peau, qui peut du coup être hyper dur, et c'est un truc assez souvent qui revient. Qu'en fait, t'as plein de trucs assez similaires au nana, en fait, parce que finalement, t'es sur des questions de poids, de taille, de cernes, de poils, de problèmes de peau type acné, donc t'as vachement de trucs similaires, en fait, pour le coup.
Mais on n'en parle pas.
On en parle vachement.
En tant que mec, on n'en parle pas.
Ouais.
Puis on n'a pas les magazines masculins, enfin, l'équivalent des magazines féminins qui traitent aussi ces sujets-là, quoi.
Ouais. Non, nous, on nous sert de la voiture et des montres.
Et des mecs bodybuildés.
Moi, j'ai pas le permis, donc je suis pas très intéressé par les voitures.
T'es parisien aussi.
Heureusement, il y a le foot. Pour que tu sois un mec, en vrai.
Voilà.
Les jeux vidéo, un peu.
Ouais.
Ouais, bah voilà.
Mais j'étais obligé d'arrêter parce que j'étais dépendant. Et du coup.
C'est dangereux pour l'entreprise.
Ouais, mes relations sociales.
Son couple, peut-être.
Justement, j'ai pris conscience finalement tôt.
Tu joues à quoi?
Je jouais à tout, mais j'ai arrêté à la PlayStation 3 ou 4 parce que j'ai compris que c'était problématique. Le jour où j'ai
4, c'est là, hein, donc.
Ouais, donc j'ai arrêté à la 3 parce que j'ai le Red Dead Redemption 1.
Ah.
Je l'ai vraiment dégommé en 5 jours en fait, parce que j'ai joué non-stop.
Ah oui.
Et en fait, c'est typique de mon comportement en console, donc c'est pour ça que j'ai arrêté.
T'as arrêté d'un... En fait, je pense qu'il y a pas mal de mecs qui ont un rapport un peu flingué aux jeux vidéo. Donc je me dis, peut-être ça les intéressera de savoir, t'as arrêté tout seul, t'as arrêté d'un coup.
Ouais.
Parce que ça peut être compliqué d'arrêter une forme de dépendance, même si c'est pas drogue.
J'ai arrêté... Non, mais en fait, j'ai pas acheté de nouveaux jeux. J'ai fini tous les jeux que j'avais. J'en ai jamais racheté de nouveaux, j'ai jamais racheté de console.
Et t'as jamais eu envie?
Si, tout le temps.
Tu passes devant des magasins et tu fais...
Ah, mais vraiment, hein, tout le temps.
Est-ce que t'as failli craquer parce qu'il y a Red Dead Redemption 2 qui est sorti?
Alors, j'ai lu toutes les... non, c'est pas vrai, mais j'ai lu pas mal d'articles dessus.
T'as regardé toutes les vidéos sur
j'ai
YouTube.
J'ai lu quelques vidéos. J'ai failli installer Fortnite sur mon téléphone, je l'ai pas fait.
Ça aussi, c'est...
Et donc non, ça va, mais j'arrive à me tenir. J'ai même une fois ma compagne actuelle m'en a acheté une et je l'ai refusée en disant non.
Mais elle est folle.
Est-ce qu'elle sait? Peut-être qu'elle sait pas si t'as arrêté tôt dans votre couple, peut-être qu'elle sait pas.
Non, elle l'a jamais vu, mais elle le sait que j'ai beaucoup beaucoup joué. Et du coup,
elle avait plus envie de te voir ou?
Non, elle sait que j'aime ça en fait. Elle sait que j'aime ça, mais donc c'était très intentionné de sa part. Et j'ai prétexté que c'était une PS3 justement. Et j'ai prétexté que la PS4 venait de sortir et que du coup mon frère la PS3 c'était pas parce que j'ai pas osé dire que c'était vraiment pas bon pour moi et elle qu'on ait une console à la maison.
T'es compulsif, t'as tendance à...
Pas trop, mais quand je commence un truc, j'aime bien le finir. Ça, c'est un vrai truc que j'ai. Et du coup, les jeux vidéo, j'avais vachement ça. C'est-à-dire que je commençais un jeu vidéo, je pouvais pas aller au bout, quoi. Et genre des PES ou des FIFA, je faisais 15 saisons d'affilée, quoi. Avec l'équipe que je construisais, je pouvais en faire 15-20 saisons d'affilée.
C'est beaucoup de temps.
Je faisais beaucoup de saisons carrière dans tous les trucs qui existaient, dans des... Voilà, j'allais vraiment au bout de tout, quoi.
Et tu veux finir tous les jeux à 100%, quoi.
Ouais, et c'est pas possible, en fait. Donc,
c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de tâches pas très marrantes, en plus, souvent.
Ouais.
Pour avoir juste l'achievement, tout est là.
Ils ont inventé le truc d'achievement, qui est une tuerie pour les profils comme toi. Enfin, je suis un peu pareil que toi, donc...
Bah ouais, mais c'est grave. Non, mais ce truc qui te permet d'arriver à des certains paliers, mais ça suffit jamais. C'est jamais le « c'est fini ».
Oui.
Attention avec les jeux vidéo, les garçons. Après, vous allez passer votre vie dessus et ça va être compliqué.
Ouais, il y a des nanas aussi qui jouent beaucoup, hein, pour le coup.
Oui, c'est sûr. C'est juste que c'est plus trop maintenant, mais il y a une époque où c'était plus... On emmenait plus les garçons vers les jeux vidéo que...
Parce que
le marketing ignorait totalement les meufs, ce qui est moins le cas.
Mais les jeux étaient des jeux faits par des mecs pour des mecs. Hein. Enfin, bon, globalement, c'était des jeux de sport, de guerre, de combat.
Ouais, mais tu vois, Final Fantasy, en vrai...
Ouais, mais c'était
rare. Genre, quoi.
Ouais, mais c'était hyper rare. Tu vois, même Zelda, qui est un peu qui était un RPG, c'est quand même un petit elfe qui allait sauver une princesse, tu vois.
Yes.
Donc c'était très... Mais Mario, enfin, tout était très... fait pour être des jeux de garçons, quoi. Effectivement, Final Fantasy, c'est un très très bon exemple. Et même Tomb Raider, tu vois. Tomb Raider, c'est une nana, mais forcément, elle a des énormes seins tout en ayant une
micro short.
Incroyable, elle est en micro short. Tu sais que c'est pas trop pour une nana, quoi.
Ça nous a pas empêché de
visiter. Si, mais c'est pas pour une nana hétéro, quoi.
Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a pas mal de meufs qui ont découvert des pulsions devant Lara Croft, peut-être, qui se sont interrogées. Oh, j'aime bien quand elle saute. Ok. Attends, j'avais un truc. Oui, est-ce que tu fais du sport?
J'ai arrêté depuis quasi 2 ans et c'est un peu compliqué. C'est un peu une grosse erreur de ma part. Où j'en ai fait sporadiquement en faisant des 7 minute workout. Je fais partie de ces gens qui ont installé l'app 7 minute workout sur leur sur leur
très
téléphone.
Entrepreneur.
Ouais.
Très start-up nation quand même, ouais. Comme concept.
Alors, certes. Ceci dit, en fait, je faisais beaucoup de trucs qui étaient juste du gainage. Et en fait, pour le coup, tu fais ça en 15 minutes du gainage, déjà, c'est bon, quoi. T'es refait, oui. t'as mal, et c'était plutôt bien. Et en fait, avant, je faisais beaucoup de yoga. Beaucoup de yoga, et je vais y retourner, là, absolument. Enfin, je crois que je vais accepter le fait que, je vais prendre un truc un peu cher, hyper mignon, il n'y a pas trop de gens, parce que j'ai pas envie qu'il y ait trop de gens pour me forcer à y aller, quoi. Et voilà.
Est-ce que t'as le même rapport avec le sport qu'avec les jeux vidéo? Est-ce que t'es du genre à te donner peut-être un peu trop?
J'ai fait beaucoup de basket et de tennis étant plus jeune et ado, et j'ai pu vomir aux entraînements de la rentrée, ouais. Tellement,
ça.
Ouais, voilà.
Tu
sais, où genre t'y vas tellement.
Si tu vomis pas, ça, c'est que t'as pas mal.
C'est que t'as pas mal.
Ok, les sportifs. Tout va bien.
Et ouais, mais en même temps, t'as aussi cette culture chez les mecs qui est. Si tu fais du sport, t'y vas à fond. Si t'aimes pas le sport, t'es pas un mec, tu vois. C'est un peu quand même. C'est un peu simpliste la manière dont je le dis, mais c'est quand même pas mal ça. Et du coup, ça t'oblige à l'espèce d'y aller tout le temps. D'aller tout le temps un peu comme un bourrin. Ce qui est pas forcément bien. Du coup, j'avais tendance à aller un peu comme un bourrin, ouais.
Est-ce que c'est pour ça que t'as arrêté?
Ou parce non, que non, j'ai arrêté parce qu'en fait, il y a un moment, on a eu un énorme. J'ai eu vraiment beaucoup de boulot avec le RAS, en fait, et du coup.
Le travail, quoi.
Oui,
l'entreprise.
Ouais, mais en fait, c'était une période un peu particulière où, du coup, vraiment, mes journées se sont énormément allongées pendant, en gros, 3 mois. Et en fait, du coup, je me suis dit, non, mais c'est bon, je peux arrêter le sport, je vais reprendre. Laisse tomber, quoi. On le connaît tous, hein, c'est le même truc pour tout le monde en fait. Tu penses que tu tires. Enfin voilà, c'est beaucoup plus facile de perdre une habitude que de la reprendre. Et du coup.
Quand tu y retournes, après tu galères, donc ouais. C'est dur. T'as pas envie. Tu connais ça, Mimi? Tu fais du sport?
Moi, j'ai jamais commencé. Donc je n'ai pas à m'arrêter à reprendre.
Alors, voilà.
Je commencerai un jour quand je ferai ma crise de la trentaine, comme tout le monde. Ok, Marc, je pense qu'on a bien fait le tour de ce que veut dire être un homme pour toi et de qui sont les mecs qui achètent des produits de soins, parce que c'est pas vraiment du maquillage que vous faites. Du coup, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as une idée de mec réel ou fictif qui, pour toi, représente une vision positive de la masculinité?
Putain, elle est... Je sais pas, en fait. Non, il y en a plein. Mais en fait, en vrai, je trouve que ce qui est assez bien... Il y a quand même un momentum qui est assez intéressant aussi du côté des mecs en ce moment, c'est que les gens, en fait... commencer à comprendre que t'as pas un unique modèle de l'alpha mâle, qui est quand même le truc hyper chiant, qui est un espèce de modèle blanc suranné de mec hétéro qui doit forcément tout dominer, qui est un peu on est un peu en train de se rendre compte qu'il y a autre chose. Et c'est assez bien, Je trouve que je trouve que les Américains sont plutôt bons pour ça. Il y a pas mal de gens. Enfin, je trouvais par exemple que Terry Crews, qui avait parlé au moment du Me Too, parce que Terry Crews est quand même, physiquement, tu le vois, le mec est un stromon, c'est un ancien genre de foot US. Il est régulièrement torse nu pour montrer à quel point il est baraque. Enfin, il y a des trapèzes. Tu découvres des muscles en le regardant. Enfin, tiens. Tiens, c'est quoi?
Ah, on a ça, nous. Toi, t'as ça.
En tout cas, lui, ouais. Et qui avait expliqué comment il avait été victime d'harcèlement aussi. Et le fait qu'il soit capable d'en parler, je trouvais ça intéressant. Enfin, je pense que t'as, et puis après, enfin, lui, un bon exemple de ça. Je pense qu'il y en aurait d'autres. Il y a un blogueur américain qui s'appelle Davidi, qui a un blog qui s'appelle Very Good Light, qui a un blog pour le coup très beauté, en allant jusqu'à parler maquillage, etc. Lui est gay, il en parle ouvertement. Gay asiatique, ce qui est du coup, enfin d'origine asiatique, c'est d'origine coréenne, du coup on parle beaucoup et c'est hyper intéressant aussi, ça te met des perspectives qui sont, moi je suis un mec blanc hétéro, je viens d'une famille plutôt bourgeoise, la vie était assez facile et tranquille, et ça t'offre des perspectives que je trouve qui sont intéressantes, et le fait que nous en tout cas on ait des clients vachement différents aussi, et que du coup tu parles avec des mecs qui sont gays, hétéros, jeunes, blanc, renoir, rebeu, tismé, tout, en fait, tu as plein de problématiques différentes et c'est assez intéressant et ce serait bien que ça continue, en tout cas.
Vous êtes distribué que sur Internet, c'est ça? En dehors de ce fameux pop-up store?
Oui, on est vendu quasi exclusivement par notre site, on est un tout petit peu dans quelques boutiques de manière très restreinte, on est chez Centre Commercial à Paris, on est aussi chez Mec Ma Limonade, et on est un peu au drugstore parisien. Mais après, voilà, l'intégralité de la gamme et tout est quasi exclusivement sur notre site, ouais.
L'objectif, c'était d'aller rencontrer vos clients, c'est ça?
En fait, c'est ça, c'est leur parler, quoi. Enfin, mais en fait, plus que leur parler, les écouter, enfin. Et justement, se rendre compte de. En fait, tu rentres dans des sujets hyper de masculinité en permanence, parce qu'en fait, t'as vraiment des mecs qui te répondent en disant: ah non, mais moi, je parle pas de ça à mes potes, en fait. Ah, mais on parle d'Angèle Douche. Et pour tout dire que c'est évident, en fait, non. Enfin, et du coup, ce truc de... Enfin, quand tu vois effectivement alors, que ce soit des mecs clients chez nous, peu importe, ou des Terry Crews, etc., qui sont capables de parler ouvertement de sujets qui sont sur le papier considérés comme n'étant pas des sujets pour les mecs, c'est vrai que c'est top. Donc, j'ai pas vraiment... Enfin, si, je pense que Terry Crews est un bon exemple, ou Davidi, ou... J'aimerais bien citer un Français, là. J'essaye, en même temps, je réfléchis, parce que je suis sûr qu'il y en a un, et qu'en fait, je vais me bouffer les doigts, je vais y penser après. Et...
Voilà. On a beaucoup d'invités qui sèchent, tu sais.
Ouais. Et on n'a pas beaucoup d'invités qui citent des Français.
Ouais.
C'est pas étonnant que tu galères, c'est pas une question très facile, et même avec quelques jours pour y réfléchir, on n'a pas toujours des réponses. On a souvent des...
C'est un peu représentatif de pourquoi on fait ce podcast aussi, tu vois.
Ouais, mais je pense que il doit y en avoir. Dido Preto, dans une certaine manière, ouais. Léo aussi, je pense que t'en as
C'est fou quand même que ça devienne pas, enfin tu vois, si je te demande c'est qui ton entrepreneur modèle, je pense que tu peux en citer 4 ou 5.
Michou est un hyper bon exemple, hyper à l'ancienne, de mec qui a quand même 80 balais, ouvertement gay, qui avait un cabaret travesti, tu vois, mine de rien, le mec il était à un niveau d'ouverture d'esprit plutôt en avance pour le coup. Donc j'aimerais vraiment en citer plein d'autres. Je pense à vous, je ne sais pas qui vous êtes, mais je vais y repenser en partant, évidemment.
Ça marche, tu me l'enverras si tu veux, je le rajouterai dans la description du podcast.
Merci.
Mais aussi de pour. Merci beaucoup, Marc.
Merci,
merci d'être venu, c'était
merci
très chouette.
Merci à tous les deux.
Très bonne idée, Michou. T'es le premier à le citer pour l'instant. Je sais pas si on va l'avoir beaucoup, mais très bonne idée. Merci, Fab.
Merci, Mimi.
Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode un peu spécial de The Boys Club. Je te rappelle que si tu es sur YouTube, tu peux laisser un pouce bleu, me donner tes réactions ou tes questions en commentaire et éventuellement, idéalement, t'abonner et cliquer sur la cloche pour ne rater aucun épisode. Si tu es sur une plateforme de podcast, tu peux aussi noter The Boys Club en lui mettant des étoiles et des commentaires sur l'Apple Store, par exemple. Comme ça, il sera mieux recommandé, plus de gens écouteront The Boys Club et la vie sera plus douce. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Je t'embrasse. Bye bye.